intelligent, ça permet à l'être humain d'abord de mieux comprendre son environnement et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Mais je pense que si vous êtes plus intelligent, ben vous avez plus de capacité d'analyser les problèmes plus finement, de manière plus complexe, parce que c'est aussi un élément important dans l'intelligence, c'est l'analyse de la complexité des problèmes, et d'autre part de trouver des solutions, c'est-à-dire de pouvoir traiter cette information. Donc on va voir que dans l'intelligence, il y a effectivement un élément qu'on va retrouver qui est de pouvoir extraire des règles, on va voir au niveau scientifique, on va dire des modèles, mais je dirais au niveau même élémentaire, si vous êtes face à une situation, qu'est-ce que vous allez faire? Une situation que vous ne connaissez pas, c'est de voir des régularités, de voir s'il n'y a pas effectivement des principes qui guident ce que vous observez. Et donc au fond, vous allez extraire des règles de l'environnement, et à partir de là, vous allez, donc c'est ce qu'on appelle une induction, et à partir de là, vous allez effectuer des déductions. Vous allez dire, bon, si effectivement ça se passe comme ça, alors il va se passer ça. Typiquement, je veux dire, si vous êtes un agriculteur, même dans une des sociétés relativement simples, vous allez observer le déroulement des saisons, les phénomènes naturels, et donc c'est une manifestation de l'intelligence. Donc on voit bien ces différentes composantes, qu'elles soient dans la nature ou qu'elles soient dans un monde comme le nôtre, qui est évidemment beaucoup plus complexe. En réalité, l'intelligence, ce n'est pas une faculté qui existerait comme ça de manière isolée. On a trop tendance à voir ça en disant, tiens, il y a l'intelligence, la mémoire, l'attention, etc. Non. L'intelligence, c'est en fond le... Et ça c'est peut-être plus discuté, mais en tout cas, c'est l'approche que personnellement je défends très fermement, et je vais expliquer pourquoi. C'est l'organisation de toutes ces aptitudes ou de toutes ces caractéristiques cognitives de manière efficace. Je veux dire que quand vous analysez un problème, vous devez faire preuve d'attention, d'analyse, de mémoire à court terme, à long terme. L'intelligence, on peut la voir plus comme un orchestre que comme un instrument. C'est plutôt l'ensemble des instruments qui se coordonnent et qui nous permettent justement d'analyser notre environnement et de trouver des solutions.
Bruno Coleman, 61 ans, est doté d'un quotient intellectuel largement supérieur à 130. La moyenne se situe entre 90 et 110.
Moi, je vois l'intelligence avec la lunette de ma propre perception, qui est plutôt la capacité d'abstraction, c'est-à-dire la capacité de conceptualiser en permanence une situation en la détachant du quotidien, c'est-à-dire en l'imaginant de manière presque spatiale. Et d'ailleurs, quand on passe les tests de haut potentiel, en fait, les tests les plus compliqués sont des tests qui consistent à faire bouger dans l'espace des formes inconnues, géométriques inconnues, avec des instructions qui consistent à les faire pivoter. Et la seule façon de pouvoir résoudre ce problème, c'est de fermer les yeux et d'imaginer une forme qui bouge de manière abstraite dans sa tête. Et donc, c'est comme ça que moi, je perçois l'intelligence et que j'essaie d'ailleurs de canaliser en permanence par une prospective dans le domaine qui est mon domaine de passion, c'est-à-dire l'économie. À force d'avoir discuté avec des personnes qui, comme moi, ont été testées avec un haut potentiel, j'ai remarqué qu'il y avait un point commun, c'était le fait d'avoir une capacité à identifier des micro-détails, des choses microscopiques, que ce soit dans un visage, dans une situation, dans une perception, qui créent des résonances internes, et en fait, qui conduit en fait à partir du plus petit vers le plus grand, c'est-à-dire d'être interpellé par le microscopique pour arriver à conceptualiser le macroscopique. Et donc c'est une prédisposition troublante finalement, parce qu'elle n'est pas du tout de nature déductive. On ne part pas du principe général vers le particulier, c'est une prédisposition qui est de nature inductive et qui conduit en permanence à, comme un immense champ d'équations, à intégrer des microsignaux dans un agrégat qui conduit à une perception très mouvante et fluente, évidemment, de la prospective qu'on peut en tirer.
Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans, parce qu'il se sentait mal dans sa peau, que Bruno Coleman s'est décidé à passer un test du QI. Un test qui lui a permis de comprendre sa singularité et de l'accepter dans toutes ses dimensions, une curiosité insatiable, une hypersensibilité aux stimuli, un cerveau qui fonctionne comme un turbocompresseur. En Belgique, selon les experts, environ 2,2% de la population générale sont considérés comme à haut potentiel intellectuel. Cela concerne donc un peu plus de 230 000 individus, autant de femmes que d'hommes. Mais qu'entend-on exactement par potentialité ? Explication avec Jacques Grégoire.
Fut une époque où on parlait de surdoué ou de doué. Les Canadiens francophones parlent toujours de la douance, comme les Américains, la gifted. Mais aujourd'hui, on utilise le terme au potentiel. Alors, la notion de potentialité est importante parce qu'elle montre que le potentiel, c'est quelque chose, et l'intelligence d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas donné tout cuit. Donc, c'est-à-dire, vous naissez évidemment avec des capacités cérébrales, vous avez un cerveau qu'on espère être intact, enfin intact, en bonne santé. Ben voilà, malheureusement, certains, déjà dès la naissance, naissent avec des déficits au niveau. Donc, ceux-là, ben voilà, ils vont avoir moins de potentialité. Et donc, vraisemblablement, certains naissent avec des potentialités un peu plus élevées que d'autres. Mais ce qui est important de souligner, et je le fais toujours avec les jeunes que je vois dans mes consultations, c'est qu'effectivement, ces potentialités, elles vont devoir maintenant se développer par une activité intellectuelle. Donc, qui va être déterminée à la fois par des variables internes. Je suis motivé, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, le bébé qui commence à manipuler, à observer, etc. Et par des variables externes. C'est les opportunités, c'est les parents, c'est l'école, c'est les médias, c'est tout ce que le sujet va avoir. Bon, si vous naissez avec de hautes potentialités, pas de bol, vous naissez en Somalie, en pleine guerre, où en plus il y a des famines, etc., ben votre haute potentialité, elle restera à l'état latent. On le voit d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas assez souligné, mais les famines ont des effets délétères sur le développement intellectuel des enfants. Alors cette idée de potentialité, elle est essentielle. Et c'est parfois à double tranchant quand on fait l'identification. Ils disent « Ah mais je suis au potentiel, donc je ne dois pas me fatiguer, je ne dois pas travailler. » C'est comme si c'était tout couille, si vous voulez. C'est comme, au fond, ils voient ça comme « J'ai reçu la fortune céleste qui me tombe, et donc du coup, je peux vivre de mes rentes, en quelque sorte. » Ça, c'est une erreur grave. C'est une très mauvaise analogie. La meilleure analogie, et c'est souvent celle que je prends avec les jeunes, c'est celle du sport. Parce que ça, ils comprennent tout de suite. Ils voient si, je dis, mais tiens, tu un tel et un tel, je sais pas, on peut prendre le foot, le tennis, ou tout ce qu'on veut comme sport, en disant, mais bon, qu'est-ce que tu vois, ce type, il est le premier. Mais tous les jours, le gars, il bosse, il travaille. Pour arriver là, il a dû travailler de manière extrêmement intensive. Alors, il avait sans doute au départ des facilités qui peuvent être de type musculaire, respiratoire, cardiaque, enfin sans doute un ensemble d'aptitudes qui étaient parfois des petites différences, vous voyez, pas des différences majeures, mais qui, grâce évidemment à l'entraînement, vont permettre à ces potentialités de trouver tout leur épanouissement. L'image, le livre et la tortue. Arriver à des niveaux de réalisation élevés sans nécessairement être au potentiel. On peut avoir des hauts potentiels qui vont avoir un niveau de réalisation beaucoup plus bas. Le jour où je me mettrai à courir, je courrai, je vais rattraper tout le monde. Le problème, c'est que c'est la tortue qui gagne finalement.
Depuis toujours, les tests de QI fascinent, autant qu'ils font l'objet de critiques. Ils mesurent, de façon générale, l'efficacité du fonctionnement mental cognitif d'une personne. L'intelligence, en effet, ne se voit pas. Seuls les actes intelligents se remarquent. Les tests de QI permettent donc de recueillir des informations sur la puissance mentale générique de quelqu'un. Sa rapidité, sa mémoire à court et à long terme, son attention, sa capacité de raisonnement, ses connaissances. Plus les scores sont élevés et plus l'individu présente des ressources supérieures, voire très supérieures à la normale. La moyenne, pour rappel, se situe entre 90 et 110. Les tests ne disent donc rien de l'intelligence émotionnelle ou sociale des individus, de leur créativité ou de leur motivation. Il reste néanmoins l'outil actuel le moins subjectif et le moins aléatoire qui soit.
Je suis frappé de voir que même les gens qui disqualifient le QI, si on leur demande, tiens, vous voulez mesurer, ils sont toujours un peu gênés. Donc, alors, comment est-ce qu'on va mesurer l'intelligence? Ben, je dirais que, d'abord, je ne peux pas mesurer l'intelligence directement. Votre intelligence ou la mienne, on ne la voit pas. On ne voit que des actes intelligents. Donc, on ne peut avoir qu'une mesure indirecte. Ça, c'est une première chose qui est à avoir en tête. Aujourd'hui, il y a différents modèles qui sont utilisés comme référence. Donc, il y a un modèle qu'on appelle CHC. C'est l'acronyme des auteurs qui en sont à l'origine. C'est Cattell, Horn. Ça, c'est un premier modèle. Et l'autre, c'est Carroll. Mais c'est deux modèles qui convergent. Qui donnent, au fond, un cadre pour faire un peu un échantillonnage de tâches. Alors, la notion d'échantillonnage, pour moi, elle est très importante. Si je fais passer un test, je n'ai pas la possibilité de tester quelqu'un pendant des jours, des mois. C'est un peu la même chose quand je fais un sondage d'opinion. Si je veux connaître l'avis des Belges sur un sujet donné, je ne dois pas tester ou questionner 10 millions de Belges. Si j'ai un bon échantillon de 1000 ou 2000 personnes, je peux arriver à une bonne estimation de ce que pensent les Belges sur un sujet, en moyenne en tout cas. C'est juste le même raisonnement qu'on peut avoir. Je ne vais pas ici prendre 36 000 tâches. Je vais faire un échantillonnage, et si j'ai un modèle pour faire cet échantillonnage, tant mieux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et à partir des tâches, je peux estimer votre niveau intellectuel, à partir de ce que vous faites. Alors, on peut toujours discuter, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux avoir telle tâche, il n'y aurait pas plus de place que telle autre, etc. Mais c'est comme si dans un sondage d'opinion, les gens me disent, oui, mais ce sondage, il ne vaut pas pour moi, parce qu'ils ne m'ont pas interrogé, moi. Maintenant, il faut se rendre compte aussi, quand on procède comme ça, et je reviens sur l'idée que je ne vois que des actes intelligents, je ne vois pas l'intelligence. Cette intelligence, donc, je l'ai déjà prise à un moment donné, c'est une photo que je fais à un moment donné, de son développement. Et donc, au fond, quand je parle de potentialité, je parle des potentialités sur la base de ce que j'ai déjà vu développer. C'est un peu comme je serais un entraîneur des recruteurs, je vais aller tournicoter dans les petits clubs de province et repérer celui qui est déjà. Je ne vais pas prendre évidemment quelqu'un qui n'a jamais touché un ballon et me dire, toi, tu ne sais pas le faire. Il faut déjà quelque chose, il faut déjà que le gars il ait déjà fait quelque chose. Donc c'est un peu le problème, il faut qu'il y ait un minimum. D'où le problème quand on se retrouve avec des sujets qui n'ont pas eu d'opportunité ou très peu d'opportunité. On se dit, mais est-ce que c'est un manque d'opportunité ou un manque de capacité? Donc ça, parfois c'est difficile de juger. Ça se corse quand vous avez des sujets qui viennent d'autres cultures. Et ça, c'est une situation qu'on a de plus en plus avec les mouvements migratoires qui deviennent de plus en plus importants. Et quand vous avez quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, qui a un tout autre parcours, voire même qui a une scolarité extrêmement perturbée, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux apprécier ses capacités intellectuelles? Donc on a toujours une mesure qui est relative à une culture donnée, et ce n'est pas le seul point, la mesure que je vais avoir, c'est une mesure relative à la population dans laquelle je me trouve. Pourquoi? C'est très différent de mesurer une réalité qu'on appelle en termes techniques, un trait latent, une caractéristique latente que je ne vois pas, et de mesurer une caractéristique objective. Par exemple, une caractéristique objective, c'est votre taille. Je la vois directement. Je peux effectivement tracer sur le mur une toise et voir votre taille. Et cette taille, ça c'est une mesure objective, puisqu'elle est totalement indépendante de la taille des autres. Que vous soyez dans un monde de géants ou de nains, votre taille reste toujours la même. Et il y a un vrai zéro. Zéro, c'est une absence de taille. Dans le domaine de l'intelligence, c'est pas du tout comme ça qu'on doit raisonner. Et donc, quand on mesure votre intelligence, on ne vous mesure pas par rapport à zéro, on vous mesure par rapport à la moyenne.
Quel qu'il soit, le résultat du test de QI ne peut être pris comme une vérité absolue. Il doit toujours être interprété par un professionnel. ne perdez donc pas votre temps à vous aventurer dans les tests proposés sur la toile. Le regard d'un professionnel est d'autant plus nécessaire qu'un individu peut présenter des compétences qui ne sont pas homogènes. Être excellent sur certaines questions, par exemple, et beaucoup moins sur d'autres. D'un jour à l'autre, les résultats pour une même personne pourraient même ne pas être identiques. Ce qui explique que les professionnels sont souvent réticents à communiquer tel quel le résultat d'un test. Face à leurs patients, ils évoqueront plutôt une marge d'appréciation. Les patients apprendront donc, de la bouche des experts, que leur cerveau fonctionne de manière plus efficace, plus rapide et plus performante que celui des autres, parce que les connexions qu'on y trouve sont meilleures et plus nombreuses.
Quand vous avez un quotient de 130, et si vous avez 8 ans, je peux effectivement, puisque j'ai âge mental sur âge chronologique, voir quel est votre âge mental pour avoir 130. Donc je peux voir combien d'années vous êtes en avance. Et on va voir qu'effectivement, à ce moment-là, on va voir 130, c'est quand même à 8 ans ou à 10 ans, ça fait quand même beaucoup d'avance. Cette asynchronie, elle peut effectivement devenir alors vraiment une source de souffrance, parce que par exemple, l'école ne fait rien du tout pour aider. Hein, j'ai parfois eu, voilà, je pense ici, un petit garçon qui était avec des troubles psychosomatiques, et à l'école, il était un peu le souffre-douleur. Il était plus petit, il s'intéressait à d'autres choses, donc voilà. Et l'instituteur lui-même le rejetait. Pour vous dire, c'était assez violent parce que l'institut était persuadé que c'était un enfant qui était hyper coaché par ses parents, alors que ce n'était pas vrai. Et donc, il l'empêchait d'intervenir en disant « Toi, le singe savant, tu te tais. »
Mais le point commun, c'est que la plupart des hauts potentiels ne sont pas des gens heureux. Ce sont des personnes qui, finalement, sont fatiguées d'elles-mêmes et qui sont fatiguées d'avoir cette matrice, cette espèce de jeu d'équations permanent qui est en activité et qui ne dort d'ailleurs que d'un œil. Et j'avais été très frappé lorsque j'avais lu quelques livres qui y étaient consacrés par le fait que beaucoup de hauts potentiels sont des personnes qui doivent s'abrutir pour justement déflecter cette interpellation équationnelle permanente. Et beaucoup d'ailleurs de très très hauts potentiels, je parle vraiment de gens qui ont des QI supérieurs à 160, 170, sont des personnes qui s'abrutissent dans l'alcool, dans une certaine débauche, parfois même dans la drogue. Et en même temps, ceux qui, de manière lucide, ont intégré avec force de douleur d'ailleurs, hein, cette réalité, parce que finalement c'est pas facile, ceux qui l'ont intégré avec lucidité sont des personnes qui canalisent ce don dans la créativité.
Certains sont créatifs, mais tous les hauts potentiels ne sont pas créatifs. La dimension créativité, elle se combine avec l'intelligence, mais elle n'est pas toujours présente. Et je dirais qu'il faut, pour être créatif au niveau, en tout cas, scientifique, par exemple, il faut une certaine intelligence. Si vous avez une intelligence très faible, ça va être un peu compliqué pour être créatif au niveau scientifique. Mais à un moment donné, vous allez voir que quand vous entrez dans certaines zones d'intelligence, il n'y a plus de corrélation entre la créativité et l'intelligence.
Méconnus, les hauts potentiels font souvent l'objet d'idées préconçues que rien ne confirme. On les croit vaniteux, hypersensibles, émotifs. Quand ils sont enfants, on les considère comme inadaptés au milieu scolaire, donc souvent en échec, mais aussi plus dépressifs ou plus anxieux que d'autres. Or, aucune étude ne permet de confirmer ce qui relève toujours, à l'heure actuelle, du cliché. En ce qui concerne le parcours scolaire, par exemple, c'est même tout le contraire. Plus les enfants ont un quotient intellectuel élevé, mieux ils réussissent à l'école et dans le supérieur, plus ils obtiennent des métiers et des revenus intéressants, plus leur employeur est satisfait, meilleure est leur santé.
Quand certains hauts potentiels ont des difficultés, c'est souvent un problème aussi d'interaction avec son l'environnement. Le fait d'être brillant intellectuellement n'est pas nécessairement une source de souffrance. Ça varie avec beaucoup de facteurs, des facteurs internes et des facteurs externes. Ce qu'on a parfois, je vois des collègues qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, alors moi je vois des des jeunes qui ont des troubles psychotiques, etc. Oui, il y en a. Mais je dirais que vous allez retrouver chez le potentiel toute une gamme de troubles que vous trouvez chez tout le monde. Donc je dis, il ne faut pas nécessairement être au potentiel pour être psychotique, pour être dépressif, pour être anxieux. On n'a pas d'éléments probants qui permettent de dire qu'il y a, a priori, beaucoup plus de troubles. Il peut y en avoir, et il ne faut pas les sous-estimer, mais dire, parce que vous êtes au potentiel, vous allez avoir des troubles, ça c'est un raccourci qui est beaucoup trop rapide. Je crois qu'il faut bien analyser ce qui se passe. Souvent, on est avec un stéréotype social qui est largement issu aussi du 19e siècle. C'est l'image du savant fou. Enfin, il y a comme ça un imaginaire qu'on retrouve dans la littérature, qu'on retrouve largement au cinéma, et qu'on aime bien. Hein. Ben, je peux vous dire, bon, moi je fréquente quand même à l'université quand même des chercheurs de très haut niveau. Il faut suffire de se renseigner, regarder les prix Nobel, ils ne sont pas tous avec un entonnoir sur la tête. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont aussi un peu... mais est-ce qu'ils le sont plus ou moins que l'ensemble de la population? En tout cas, moi, je n'ai pas de données probantes pour le prouver. L'exemple de l'hypersensibilité, on travaille là un peu, parce que c'est vrai que moi, je vois des enfants hypersensibles, et donc ça existe bien, mais... Voilà, il y a des enfants qui sont hypersensibles sans être au potentiel et des hauts potentiels qui ne sont pas hypersensibles. Donc, j'ai parfois des parents qui viennent en disant « Mon enfant est hypersensible, donc il est à haut potentiel. » Donc là, c'est un raccourci. Il n'y a rien qui permet de prouver aujourd'hui que les hauts potentiels soient systématiquement beaucoup plus hypersensibles.